RFI. Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bienvenue à tous dans Radio Foot International. Aujourd'hui, nous allons parler de Ligue des Champions, évidemment, comme hier avec cette cinquième journée et la dernière en ce qui concerne les équipes des quatre groupes avec l'heure de vérité. L'heure de vérité pour le Paris Saint-Germain qui a rendez-vous ce soir au Parc des Princes avec Liverpool. Verront-ils rouge les Parisiens? S'ils perdent, ils seront éliminés. Mais s'ils gagnent, ils auront encore des chances de disputer un huitième de finale. Un groupe C très serré, on le sait, et un match que vous pourrez écouter ce soir sur RFI. Lyon assure le spectacle en Ligue des Champions. Quel match, quel but aussi de Maxwell Cornet. Mais Lyon n'est pas encore qualifié. Alors que Manchester City, est reparti qualifié de la région lyonnaise. Les Lyonnais, en tout cas, joueront leur va-tout. Ce sera en Ukraine et dans deux semaines. D'autres qualifiés aussi hier soir grâce à leur prestation ou d'ailleurs à la prestation des autres dans le même groupe, à savoir la Roma, le Real, le Bayern, l'Ajax et aussi Manchester United. Invité aujourd'hui dans ce studio pour évoquer ces sujets, un Parisien d'abord, un vrai puisqu'il a défendu les couleurs du Paris Saint-Germain, Eric Rabessandratana, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Dans quel
tous.
État d'esprit êtes-vous?
Comme tout le monde, stressé.
Oui. Comme tous les Parisiens, je suppose.
Ah, si, oui, comme tous les Parisiens, pardon.
Dominique Sévrac, vous êtes un peu parisien aussi.
Tout à fait.
Par la force, tout va bien, vous travaillez pour le journal Le Parisien.
Tout va bien. On joue tous cette bonne tannée. Vous sprintez dans les couloirs.
Hein. Oui, bah oui, des fois c'est un peu loin. Et alors, Dominique, vous.
Non, tout va bien. Je suis confiant, moi, de manière générale, dans la vie.
Moi aussi, je suis confiant, mais c'est vrai.
Je suis confiant.
Dans la vie, oui, mais dans le match.
Quand je joue pas, je suis encore plus confiant.
Nabil Djellit.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bonjour Nabil, vous n'êtes pas parisien, mais vous êtes confiant ou pas? Vous y croyez dans ce Paris?
Il est né à Saint-Germain-en-Laye.
C'est la moitié
du club.
Il y a seulement les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, quand l'Algérie joue à l'extérieur, qui me stresse. Pour le reste, je suis assez zen.
Alors on va parler de tout ça. Radio Foot, c'est parti.
Alors se surpasser. Le public derrière les buts, on l'aura. Donc il faut que les tribunes latérales, cette fois-ci, y compris le carré VIP, se lèvent et encouragent nos Parisiens.
Là, ici, on va devoir faire le jeu, on va devoir la jouer offensive, prendre un peu plus de risques même face à une équipe de Liverpool qui, à un moment aussi, va tenter d'inverser la situation et de faire le jeu. Ils veulent aussi assurer la qualification, ils viennent ici pour un résultat, ça c'est une chose certaine. Et... il faut juste voir un visage du PSG motivé, offensif et prêt à tout. On va juste gagner, on n'a pas le choix.
Départ des supporters du Paris Saint-Germain et puis aussi Thomas Meunier pour donner le là de cette soirée qui les attend. Alors vont-ils nous éblouir ce soir, les Parisiens, dans leur tenue blanche ? De pied en cap, cette fois, ils ne seront pas en noir. Et pour ce dernier match européen de la saison, au Parc des Princes, ce soir en effet, le Paris Saint-Germain, comme ils reçoivent Liverpool, si le club du Qatar veut poursuivre son aventure en Europe la saison prochaine, il leur faut gagner. D'ailleurs, même s'ils veulent jouer la Ligue Europa, il faudrait gagner. D'ailleurs, gagner, c'est toujours plus simple, a priori. Dans ce groupe C, où à cette heure, tout le monde peut encore rêver de huitième de finale, les Parisiens ont donc leur destin en main. Il suffit de battre les Reds, des Reds qui les avaient battus, on s'en souvient, à Anfield, début septembre. Les joueurs du PSG peuvent-ils y parvenir? En tout cas, Jürgen Klopp, lui, évidemment, se méfie.
On veut être aussi bon que possible. Ce sera un match très compliqué. Les deux équipes sont très ambitieuses dans cette compétition. C'est toujours un challenge, mais on adore ces matchs. Ce n'est pas parce qu'on a gagné 3-2 à l'aller qu'on a trouvé la clé pour gagner. J'ai gardé en tête que Paris n'était pas une équipe facile à jouer. Mais on sait aussi que ce n'est pas facile de jouer contre nous. Et puis, Paris n'a pas forcément l'habitude de jouer ce type de rencontre dans son championnat tant il le domine. À nous de profiter de cet aspect. En tout cas, si les deux équipes jouent à leur meilleur niveau, ce devrait être serré et nous donner un joli match.
So I think we expect that it will be tight. If both teams play on the highest level, then it should be a good game.
Un joli match, évidemment. Jürgen Klopp, on le sait, il pense au spectacle, pas avant tout sans doute, mais il pense aussi au spectacle. Alors sur le papier, comme on dit, en regardant l'effectif et le contexte de ce match, qui se joue donc à domicile au Parc des Princes et évidemment à guichet fermé, eh bien on aurait envie de répondre oui, Eric Rabessandratana, ou non.
Non, si, on a envie de répondre oui. Non, mais après, moi, je suis confiant, mais c'est vrai que ce qui est inquiétant,
parce
c'est...
Parce qu'il tresse quelques couronnes, quand même, au Paris Saint-Germain, Jürgen Klopp. Oh,
bon, non, mais il sait qu'il y a de la qualité, donc, forcément, il va pas dire que c'est des nazes et qu'ils vont, ils vont gagner l'argent.
Il risquerait d'émotiver.
Déjà, il se protège un petit peu.
Il dit, on n'a pas forcément trouvé la clé.
Ils n'ont pas forcément trouvé la clé. Ils sont surtout tombés contre un Paris Saint-Germain qui n'a pas joué à fond et qui n'a pas joué surtout son match aller.
Mais joue-t-il à fond?
Mais pour l'instant, le problème, il est là, c'est qu'ils n'arrivent pas à atteindre le niveau qu'on attend d'eux. Donc c'est ça qui nous dérange en fait.
L'effectif,
par rapport à
l'instant, c'est rassurant. L'effectif est là. Les meilleurs sont là.
Ben, l'effectif est là, les deux sont là. Après,
les deux.
Oui, j'ai dit les deux parce que c'est les deux qui font la.
Il y en a neuf autres.
Non, mais c'est intéressant que tout le monde dise les deux parce que quelque part, de facto, on exclut Cavani.
C'est ça.
Non, mais c'est incroyable parce qu'il y a encore un an.
Non, mais même
t'exclus
les autres parce que moi, non, je suis désolé. Je suis sûr que tu
non,
pourrais.
Non, mais je veux dire trois plus forts qu'un seul.
Que Neymar et Mbappé aient envie d'exclure Cavani, c'est une chose, mais que nous, dans notre langage, et pas qu'ici et partout, j'entends les deux.
Non, non, non. Attention, c'est parce qu'ils ont été plus ou moins blessés. Nabil, c'est ça. C'est-à-dire, il y avait cette certitude autour d'eux depuis les journées internationales. Je pense pas qu'on veuille exclure Cavani. Vous voulez exclure Cavani?
Non, de toute façon, si quelqu'un veut exclure, c'est pas nous, c'est plutôt deux, c'est les deux.
Oui, c'est ça. Les deux, surtout le Brésilien, quand même.
Mm-hmm. Bon, enfin bon. Non, mais voilà, après, on attend que ce PSG nous fasse un vrai gros match contre un top d'Europe, quoi. Donc, pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Et on attend toujours et on a largement de quoi faire. Sauf que ça n'est pas arrivé contre Liverpool là-bas. Ça n'est pas arrivé contre Naples ici. C'était un peu mieux contre Naples, mais c'est toujours loin de ce que tu dois être capable de faire. Alors, c'était mieux, mais maintenant, aujourd'hui, on est là pour le rendez-vous et ils ont intérêt à répondre présent. Parce que sinon, je pense que ça va partir dans tous les sens.
Dominique, théoriquement, sur le papier, tout est réuni. L'effectif est là. Apparemment, il n'y a pas de blessés. On a la motivation. On a un bon entraîneur. On a aussi un Parc des Princes pour nous soutenir. A priori, tout est là.
Tout est réuni, effectivement. Au match aller, c'était le début de saison du Paris Saint-Germain avec un nouvel entraîneur face à la quatrième saison de Jürgen Klopp et du finaliste de la dernière Ligue des Champions. Finalement, en faisant un mauvais match, Paris ne perd que 3-2, même si c'est pas du tout le reflet de la partie. Mais Paris ne perd que 3-2. Donc on peut penser que un peu plus de deux mois plus tard, Paris est mieux, Liverpool est moins bien qu'à l'époque. Ça peut compter aussi. Par exemple, Liverpool depuis a fait match nul à Arsenal alors qu'ils auraient dû perdre. Ils ont perdu à l'Étoile Rouge 2-0. Ouais. Bon, ça en revanche, c'est un argument qui est réversible. Comme Liverpool a perdu à l'Étoile Rouge, on peut imaginer qu'ils vont pas refaire deux fois la même erreur et venir au Parc avec d'autres intentions que cette sorte de non-match. Ce soir-là, à l'Étoile Rouge, on a l'impression qu'on avait le PSG puisque il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas les codes requis. C'est ça qui manque au Paris Saint-Germain, vous l'avez dit. Il y a tout, il y a un public, il y a le retour des supporters depuis quelques années voulu par Nasser Al-Khelaifi. Il y a un vrai cop, en tout cas, ce qu'on appelle tribune Auteuil, c'est-à-dire à gauche quand on regarde le match. Il y a des joueurs.
Je pense que
Neymar, Mbappé, tout le monde voudrait les avoir dans n'importe quelle équipe. Il y a du talent, Thiago Silva, c'est un super défenseur, Marco Verratti, il a beau faire des bêtises dans la vie, ça reste un super milieu. Il y a du talent à toutes les lignes.
Mais il manque ce qui s'achète pas.
Mais à un moment donné, à chaque match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, et ça dure depuis longtemps, on va dire depuis, l'époque Laurent Blanc, notamment le match à City en quart de finale, retour, il manque une âme. Un état d'esprit, quelque chose qui, on se transcende lors des rendez-vous. On va parler de Lyon, c'est-à-dire qu'on attend du Paris Saint-Germain, c'est quand même pas le même club que Lyon en termes de budget, de talent. On attend du Paris Saint-Germain qu'il imite Lyon, alors que ça devrait être le contraire.
Dans l'investissement,
l'investissement, dans l'engagement, dans l'état d'esprit, qui fait qu'on peut ne pas être le meilleur, mais on peut être meilleur que l'adversaire parce que on offre un supplément d'âme. Et ça, ce supplément d'âme, le Paris Saint-Germain nous le doit. Il est l'or, monseigneur, comme disait les montants dans la folie des grandeurs. C'est maintenant ou jamais, parce que la saison du Paris Saint-Germain peut être quasiment terminée demain matin. En cas de contre-performance, éliminé de la Ligue des Champions, parce que la Ligue Europa, ça les intéresse quand même beaucoup moins. Championnat, bah, acquis. 14 victoires de suite, qui gagne à Bordeaux, ça changera rien ce week-end. Donc, c'est un peu, voilà, vous êtes dos au mur, face à votre destin, tous ces clichés qu'on emploie, mais là, c'est vrai. C'est maintenant ou jamais.
Oui. Nabil, quelque chose à rajouter ou
non, juste
on parlerait des trios avec.
J'attends. Non, mais juste un bon. Bah, on attend le grand soir. On a cru l'avoir face au FC Barcelone le soir où le Paris Saint-Germain a été absolument exceptionnel au rendez-vous avec ce match aller où il avait remporté 4-0. Ils avaient mis tout, les ingrédients, le talent. Il n'y avait pas Neymar et Mbappé à ce moment-là. Ils ont quand même gagné 4-0. Donc
ça veut dire que
le football, c'est pas qu'une question de superstars et super vedettes. On a cru, c'est ce soir ou jamais, 750 millions d'euros investis, mis sur la table. Les dégâts collatéraux seraient très importants en cas d'élimination du Paris Saint-Germain. Ils ont le forfait financier qui est là, et également des velléités de départ qui pourraient apparaître dans ce groupe. Faut pas se leurrer, ce soir, le Paris Saint-Germain, voire le projet Qatari, en partie, joue son avenir.
Vous voulez rajouter quelque chose, Eric ?
Ouais, non, mais il y a quand même des motifs de satisfaction et d'espoir, puisque Liverpool a quand même perdu les deux matchs à l'extérieur, donc on a quand même de l'espoir. Mais c'est vrai que il y a une grosse attente derrière ce PSG qui nous doit quelque chose.
Un gros suspense. Oui. Alors, moi, j'aimerais savoir, Nabil, par exemple, on a entre ces deux équipes, et ça, c'est assez fascinant quand on regarde sur le papier, quand on regarde les compositions supposées de ce soir, on a quand même face à face deux trios absolument incroyables.
Oui, tout à fait.
On a d'un côté Neymar, Cavani, Mbappé, qui se retrouvent face à Mané, Firmino, Salah. À eux deux, disons, dans les 10 derniers mois, en un an et demi, un trio a marqué 125 buts, l'autre 112, donc finalement, c'est pas très éloigné. 125, c'est pour les Parisiens.
Ouais.
Mais on sait que la Ligue 1, c'est pas aussi toujours pareil que la Première Ligue. Est-ce que pour vous, il y a un trio qui est meilleur que l'autre?
Pour moi,
dans l'absolu et meilleur en ce moment?
Si on parle en termes d'individualité, le classement, je peux vous donner mon classement. Pour moi, le meilleur joueur des 6, c'est Neymar, le brésilien, mais après en termes de trio, en termes de complémentarité, en termes d'affinité, il y en a un qui a donné plus de garanties puisqu'il est arrivé en finale de la Ligue des Champions. Et ce qui est extraordinaire dans le trio de Liverpool, c'est que on sent que chacun met un peu son ego de côté. L'année dernière, on avait parlé de pseudo tension entre Mané et Salah, comme quoi Mané se faisait un peu piquer la vedette par Salah, mais pas du tout. On sent que voilà, c'est deux joueurs intelligents et qui ont compris qu'ils ne pouvaient que gagner
ensemble, alors
que du côté du Paris Saint-Germain, j'en parlais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est en train de transformer le trio
en duo.
Donc ce soir, il y a intérêt que l'affaire Louis Trio pour le Paris Saint-Germain, parce que sinon ça risque d'être compliqué.
L'affaire Louis Trio, la fille Louis Trio pour nos auditeurs, c'est un groupe de musiciens français que Dominique connaît.
Dans l'absolu,
vous voulez chanter, Dominique?
Comme vous dites,
on peut nous envoyer un petit bout
dessus. Mais comme vous dites, Annie, dans l'absolu, pour moi, le trio parisien est meilleur, parce que Nabil a dit que le meilleur des 6, c'était Neymar. Moi, je dirais que les deux meilleurs des 6, c'est Neymar et Mbappé, pour moi. Donc, dans l'absolu, le trio parisien est le meilleur. Sauf que, dans la réalité, c'est le trio de Liverpool qui est le meilleur. Celui qui est le plus complémentaire, celui qui joue les uns pour les autres, qui fait des efforts.
Oui. C'est-à-dire qui joue vraiment ensemble.
Qui joue ensemble.
Parce que Firmino, il marque un peu moins, dans les statistiques. Mais les passes décisives, par contre, de sa part.
Vous avez, au match aller, par exemple, Firmino, il est blessé à l'œil. Il rentre qu'en fin de match. Et c'est lui qui marque le but de la victoire. Mais c'est Sturridge qui joue, qui est quand même pas un grand attaquant. Mais comme ils se font bien dans le truc, ils marquent un but et ils provoquent un penalty. Et c'est que Sturridge, parce que c'est facile de l'intégrer. Je pense qu'aujourd'hui, Cavani est un peu dans cette position de Sturridge. On sent un peu la pièce rapportée et qui ne s'entend pas avec les deux autres. Ça serait presque mieux, entre guillemets, pour le Paris Saint-Germain, mais c'est terrible de dire ça, que le trio d'attaque dans le 3-4-3 de Tourelle. Bon, peut-être que ce soir il va changer de système, mais ça serait de mettre Di Maria, Mbappé et Neymar. Peut-être que Cavani, c'est terrible de dire ça parce que c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Voilà, il se trouve qu'il n'est pas compatible.
Il n'est pas respecté surtout.
C'est pas de sa faute.
C'est ça.
C'est pas de sa faute.
Faut dire les choses.
Mais c'est pas de sa faute.
Il n'est pas respecté.
C'est pas de sa faute, quoi.
Il n'est pas respecté.
C'est là où les supporters n'arrivent pas à laisser passer Cavani, parce que Cavani donne tout pour son club.
Mais les supporters, ils le savent.
Mais bien sûr.
Ils le montrent, ils le disent, ils le chantent.
Il y a un manque de. Je pense qu'il souffre d'un manque de reconnaissance de parce que.
Oui,
voilà,
parce qu'il n'a pas un ego non plus.
Il s'inscrit pas du tout dans le même bagage que Mbappé.
C'est pas
le même
Roger Neymar. Donc c'est ça, même en dehors du
terrain. Il est plus apprécié. Et Neymar, je crois qu'il lui a jamais pardonné ce qui s'est passé l'année dernière.
Ouais, peut-être.
L'histoire du pénalty.
L'histoire du pénalty. Puis aussi le public du parc qui a pris fait et cause plutôt pour Cavani, parce que en termes de valeur, et c'est important de dire ça, en termes de valeur, Cavani renvoie l'image d'un gars simple. Et
exactement.
Les gens, c'est ce qu'ils recherchent.
Ils s'identifient à lui. Ouais, voilà. Tout simplement, oui, c'est vrai. Donc, c'est plus facile.
Alors, quelle tactique proposera aujourd'hui Thomas Tuchel du classique avec lui, puisqu'il nous dit qu'il progresse en Ligue 1 et qu'il teste des choses les unes après les autres? Ou alors, est-ce qu'il va innover, comme lorsqu'il l'avait fait face à Naples? En tout cas, l'entraîneur du PSG, il a plus ou moins livré les clés de sa tactique au micro d'Éric Mamrut.
La clé est qu'on joue avec confiance. Et on joue offensif et on joue pour gagner. Aussi, une chose que nous passe le ballon avec très très vite et utilise pas beaucoup de touches dans le camp adverse. On doit faire les décisions très très vite pour trouver Ney, pour trouver Kylian dans l'espace dangereux. Et j'espère que mes joueurs jouent avec confiance et avec passion et avec patience. Je pense que nous sommes prêts pour ça, mais je sais aussi que nous devons jouer dans notre meilleur niveau.
Avec passion, avec patience, il joue même sur les mots, hein, l'entraîneur allemand. Dominique Duclair.
Il parle très bien français,
oui.
On comprend,
oui.
Ce qui n'était pas le cas de son prédécesseur.
Oui, il a des mots châtiés en plus, c'est pas un vocabulaire de vestiaire.
Vocabulaire recherché.
On sent que vous n'aimez pas son prédécesseur, mon cher Dominique.
C'est plutôt lui qui ne m'aimait pas, mais bon, ouais. C'est une autre histoire.
Il est très heureux à Arsenal maintenant.
qui aime bien châtier bien, n'est-ce pas, Dominique? Est-ce qu'on aura du classique ce soir, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va innover?
Ah, c'est un peu la marque Tuchel, parce que là, il n'a pas livré les clés tactiques, il a plus parlé des ingrédients justement dont on parlait tout à l'heure, le cœur, l'engagement. Tactiquement, je crois que d'après ce que j'ai compris, il veut revenir à ce qu'il a fait au match aller. Il a un 4-3-3 face à lui, il va faire un 4-3-3 pour il pense que c'est la meilleure réponse. Et puis Tuchel, c'est ça, c'est son ADN. C'est quand même 17 matchs avec le PSG, je crois qu'il y en a que deux fois la même compo d'équipe depuis le début. Il change tout le temps, il change de système au cours du match aussi.
Voilà, c'est un pour perdre l'adversaire ou pour gagner.
Pour s'adapter, il s'adapte tout le temps parce que
oui,
pour
mais là
lui...
c'est lui qui s'adapte aux autres en fait. Ouais. T'es chez toi, c'est à toi de gagner, c'est à toi d'envoyer le message et le signal.
Oui, mais tu
Klopp,
sais quand même Nabil, tu sais quand même que si tu pars la fleur au fusil, on a parlé de l'attaque de Liverpool, il y en a d'autres dans le passé qui l'année dernière qui se sont fait avoir. On faut faire attention
mais
aussi
quelle attaque face à Liverpool. C'est-à-dire que c'est toi qui as peur, en fait.
Pas du tout.
Ils n'ont pas peur, en fait. Ils ont Mbappé, Neymar, mais ça ne change rien.
Non, mais il faut faire attention à Liverpool, quand même, ouais. Nabil.
Non, mais je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais...
Non, mais Nabil,
je ne suis pas fan de la compo. Mais vas-y, Eric, je te sens une chose sur le truc.
Justement, là. Ouais, non, mais justement, parce que moi, j'aimerais bien avoir un PSG qui joue et qui ne se pose pas la question de savoir si Liverpool
que font
va
les
leur
autres.
Poser des problèmes. Moi, j'aimerais avoir ce PSG-là, parce que si tu joues comme tu dois jouer avec les qualités que tu as et tout ça, mais tu peux battre tout le monde, il y a aucun problème. Donc tu n'as même pas besoin de te poser
donc
la question.
Donc il faudrait pas changer.
Donc moi j'aimerais qu'ils jouent comme ça parce que ça voudrait dire déjà qu'ils sont impliqués dans le match. Moi je préférais un 3-5-2 mais
oui, c'est un peu dans le même esprit derrière
parce que en fait tu as les joueurs pour jouer en 3-5-2.
Ouais.
Tu as moins les joueurs pour jouer
mais
en
4. Qui alors les deux devant, qui t'enlève alors? T'en enlèves un alors? 3-5-2.
Moi je mets pas Di Maria déjà.
Oui mais ça veut dire quoi? C'est Cavani qui saute.
Non, après tu t'arranges mais je suis pas fan de Di Maria parce que même si c'est le plus performant
des
quatre pour l'instant sur l'année civile
qui est spectaculaire.
Mais, voilà quoi, il y a trop d'irrégularités. Alors bon, à la Ligue des Champions, il a envie de jouer donc je sais que il y aura pas de mauvaise surprise. Mais ouais non, je mets les trois, après il y a toujours possibilité de mettre ou Neymar à gauche ou il y a toujours un moyen de s'arranger ou mettre les deux derrière.
De toute façon, je crois qu'ils font un peu ce qu'ils veulent sur le terrain, non?
Ouais, non, puis voilà, il y a
Neymar,
beaucoup de liberté et puis
Neymar,
tant mieux, c'est ça qui est important. C'est l'animation.
Neymar est en 10.
Ouais, voilà, c'est ça avec Cavani.
Oui, non mais oui, bien sûr.
Nabil, est-ce que par contre on peut s'attendre à une surprise de la part de Klopp?
Bah, j'ai pas l'impression, moi, parce que je pense
Klopp,
que...
Lui, par contre, lui, il a ses certitudes.
Non, il a ses certitudes. Après, c'est son milieu de terrain, comment il le compose. Il est moins créateur que celui du Paris Saint-Germain. Il est plus costaud. Il y a Milner, Anderson qui est là. On voit que Naby Keïta, finalement, il joue pas tant que ça, l'international guinéen. Donc, moi, je suis curieux. Il va mettre Wijnaldum, qui est quand même assez impressionnant. C'est impressionnant, un box-to-box.
Milner, on en parle assez... rarement aussi.
Ouais, Milner. Alors, Milner, c'est le gars qui est annoncé à chaque fois en début de saison remplaçant, et c'est le gars qui fait toute la saison comme titulaire. Il incarne l'esprit. Non, mais le combat, il va être au milieu de terrain. Après, on voit des compositions. Peut-être que Dominique, tu es mieux informé que moi sur ce sujet. Est-ce qu'il met Marquinhos ou pas? Parce que Marquinhos, il veut pas jouer au milieu. Il va être obligé d'y jouer. Et on sait que ça n'a pas été une franche réussite.
Moi, j'explique pourquoi. Marquinhos, je pense qu'il peut jouer au milieu de terrain. C'est juste une question d'adaptation. Alors, ce qui est casse-pied, c'est qu'il ne l'a pas fait jouer depuis.
Ouais.
Au milieu de terrain. Donc, c'est ça qui me dérange un peu, de toujours faire un laboratoire le jour où tu
le jour du match.
Travailler avant. Et après, tu fais. Il n'y a pas de souci. Mais là, bon, bref. En tout cas, je sais que Marquinhos peut jouer devant. Et, en fait, s'il fait jouer Marquinhos devant la défense, ça veut dire que c'est pour avoir justement un maximum de joueurs offensifs pour parce qu'il va
il renforce
donc il en aura 4 vraiment dans l'axe qui seront forts, et qui Marquinhos il va avoir un boulot énorme parce que là il va être obligé de
donc c'est pour lui en fait, ce soir.
Plus peut-être voilà, je pense
quand
que
quand tu mets Marquinhos, tu joues quasiment avec 3 défenseurs centraux quoi. En fait, ta sentinelle elle s'incorpore aux 2 centraux si tu joues en 4-3-3.
C'est une nécessité.
Ah, mais là c'est encore plus vrai parce que si tu mets, je sais pas s'il met vraiment Kerrer ou je sais pas si Meunier joue ou, parce qu'on parle de Kerrer à droite mais
non, je pense que ce sera plutôt Meunier.
Ouais, je pense aussi mais bon, c'était
non, mais
un peu
voilà,
ce qui
fuitait. Non mais voilà, mais Annie elle a raison. Liverpool, on sait très bien comment ils vont jouer et on sait très bien qui va jouer. Et le Paris Saint-Germain, on est en train de se poser de la question, qui va être le latéral droit? Qui va être le numéro 6, dans quel système? Donc quelque part,
oui,
même
c'est
si
c'est pas gênant parce qu'il a essayé, plein de choses, et moi j'aime bien Tourelle pour ça parce qu'il a concerné tout le monde.
Toi-même, tu as dit que ça avait pas donné de garantie d'avoir mis Marquinhos déjà.
Non, moi ce qui me dérange c'est de pas l'avoir fait travailler avant. Mais non, Marquinhos il a été bon, il a pas été bon. Ce qui est important de ce qu'a dit Klopp, c'est que il a dit si on n'a pas le ballon, ça va être compliqué. Oui. Donc ça veut dire peut-être aussi que il va fermer la boutique parce que il se dit que il jouera que des contres.
Donc à vous
contres, ils sont terribles. Hein.
Donc à vous écouter, eh bien on aura un match avec du suspense et on attend, on espère ce match référence, comme on dit dans notre langage de sportif. On attend le match référence du Paris Saint-Germain et ce sera donc à suivre sur l'antenne de RFI avec Eric Mamrut et Frédéric Suto en direct du Parc des Princes, n'est-ce pas,
hein,
à partir de 21h, 20h en temps universel. Pour se rassurer en tout cas et ne pas dépendre du résultat des autres, eh bien signalons quand même le match de Naples. Naples qui recevra dans le même groupe l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est peut-être l'équipe dont il faut se méfier, requinquée à domicile par sa victoire surprenante sur Liverpool. On ne sait pas s'ils se sont fait piéger ou s'ils ont un peu lâché ce jour-là. Et ça sera très important pour la suite puisque le PSG terminera là-bas à Belgrade. Autre match important peut-être, l'autre PSG de la soirée peut-être, Nabil.
Oui.
Tottenham. Oui. Tottenham qui est dans un groupe B, là aussi encore incertain.
Ouais,
le Barça
compliqué.
Est déjà qualifié. Mais les Spurs, eh bien, doivent passer devant l'Inter Milan. L'Inter Milan, qui est pas mal, grâce à Icardi notamment.
Tout à fait.
Ça va être compliqué parce que même Tottenham, même à domicile, eux, ils se font battre.
Ouais, mais ils sortent d'un match référence en championnat face à Chelsea. Alors effectivement, c'est la première ligue et c'est pas la Ligue des Champions. On a retrouvé aussi des hommes en forme qui l'étaient la saison dernière et qui étaient un peu moins en début de saison parce qu'ils revenaient de Coupe du Monde ou parce qu'ils avaient des problèmes personnels. Je pense notamment à Eriksen ou à Son, qu'il a réaligné devant. L'apport de Moussa Sissoko plutôt au milieu de terrain qui apporte de l'impact. Bon, et Kane quand même qui est aujourd'hui un des trois meilleurs attaquants au monde.
Toujours là.
Qui est fantastique tout simplement, qui porte cette équipe de Tottenham. Ils ont quand même, je pense, les ingrédients pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe de l'Inter. Et puis un joueur à surveiller également, un Argentin, peut-être que vous en parlerez ici, c'est Foyt, défenseur central qui est en pleine émergence du côté des Spurs. La saison dernière, ils s'étaient sortis d'une poule déjà compliquée avec Dortmund et le Real Madrid. Donc ils ont un petit peu d'expérience. Bon, bah, c'est soir, c'est acquis tout double aussi pour eux. Mais moi, je pense qu'ils peuvent le faire.
À signaler aussi du suspense dans le groupe D. Alors, le FC Porto devrait largement se qualifier. Ils sont en tête. Et puis, alors là, ça se joue entre Galatasaray et Schalke 04. Il faudrait au Galatasaray battre le Lokomotiv Moscou. Et eux, ils joueront aux alentours de 19h. Enfin, on a un deuxième club français encore dans cette course. Alors, je l'ai gardé pour la fin. Dominique, vous allez me dire un petit mot, mais Monaco, déjà éliminé. Donc, du coup, ça enlève un peu d'intérêt pour ce qui est de l'ASM. Mais ils vont jouer à Madrid contre l'Atlético, le club d'Antoine Griezmann, et presque qualifié aussi, tout comme Dortmund.
Oui, c'est ça. Pour Monaco, qui reste sur une victoire à Caen, la première de l'ère Thierry Henry, moi, je lui conseillerais, je sais qu'il nous écoute attentivement, de mettre une équipe vraiment B pour pas que les joueurs soient abîmés, parce que de toute façon même l'équipe A perdrait face à l'Atlético Madrid a priori. C'est quand même l'Atlético, un des meilleurs clubs d'Europe, un vainqueur potentiel de la Ligue des Champions. Donc pour bien montrer que tout ça n'a rien à voir avec une histoire qui est en train de se construire, je mettrai une équipe qui est là pour apprendre avec des petits jeunes et tout ça, et repasculer sur le championnat, une autre compétition beaucoup plus importante pour Monaco.
Pas du tout d'accord, Eric, apparemment.
Non, je suis pas d'accord, mais
je vois ses mimiques, alors tu donnes la parole.
Quand il met, je mets une équipe de jeunes, en fait, tu mets l'équipe actuelle, parce qu'il a été blessé.
C'est un peu ça.
De toute façon, ça change rien.
Son équipe B, c'est son équipe A.
Bah oui, voilà. Non, mais moi, Moi, je serais pour qu'il joue, justement, pour avoir un peu plus de. Ouais, et puis c'est un peu plus de. Tu perds ou tu gagnes, c'est pas grave, mais essayer de mettre en place des choses, essayer d'être solide. C'est tout, et puis après, et voilà, tu blesses. Ouais, non, voilà, ça c'est sûr, c'est pas de blesser. Non, mais c'est intéressant comme.
Voilà pour ce qui est de la soirée. Donc, il y a deux matchs en début de soirée, et ça sera celui-là, notamment celui de Galatasaray, et puis aussi l'autre entre Dortmund et Bruges. On continue dans Radio Foot. On continue avec cette Ligue des Champions qui nous passionne. Et avec Lyon, on y faisait allusion tout à l'heure, un grand Lyon hier soir, et puis la déception de ne pas avoir encore assuré sa qualification, ne pas être sûr encore de disputer le huitième de finale. Pourtant, l'OL hier soir a proposé du spectacle, du jeu, du suspense. Malheureusement, l'équipe était aussi rattrapée par ses fantômes. Elle est retombée dans ses travers. La partie s'est terminée. Tout s'est joué dans les derniers instants. Tant
comme
l'égalisation,
comme souvent avec Lyon en Ligue des Champions,
de Manchester City, le deuxième but, 2-2, on vous le rappelle, rattrapé au score donc dans les dernières secondes, et puis ce but du Shakhtar Donetsk qui change tout. D'abord parlons de l'équipe, Nabil. Éblouissant, ces Lyonnais, on parlait tout à l'heure de l'engagement,
imprévisible.
Ah oui, alors on disait avant le match déjà qu'il était imprévisible. Et le reste.
Alors avec Lyon, il y a un truc à savoir. Il y a dans certains matchs, il faut pas arriver en retard au coup d'envoi, mais avec Lyon, il faut pas partir trop tôt du stade. Donc en gros, c'est ça. En gros,
c'est jamais fini.
Donc
c'est
jamais. Première mi-temps, il y avait 0-0.
Après, ils tirent la quintessence de leurs individualités sur ce genre de rencontre où ils élèvent le curseur à tous les niveaux. Alors effectivement, c'est rageant parce qu'en championnat de France, il y a une inconstance, un manque de sérénité. Mais même en Ligue des Champions, on peut avoir une forme de frustration parce que finalement, ils arrivent à museler ou à contrecarrer des très bonnes équipes. Ils l'ont fait face à Hoffenheim, face à Manchester City, qui a absolument un autre niveau. Mais à chaque fois, le scénario, quand même, lui, laisse des regrets. Et j'ai pas envie de porter la poste, mais enfin, tous les ingrédients sont quand même réunis pour avoir des regrets éternels dans ce groupe. Parce qu'il va falloir se déplacer en Ukraine, ça va pas être simple. Rappelons quand même que le Shakhtar Donetsk, c'est une équipe qui a quelques références, qui se qualifie régulièrement en huitième de finale, qui a une armada de Brésiliens, vous le savez très bien, Annie, qui est.
Il y en avait pas mal du côté de Lyon.
Ouais, il y en avait pas mal du côté de Lyon, mais après. Hier, franchement, soyons sincères, c'était un match, mais c'était un match de joueurs. C'est-à-dire que hier, pour Lyon, c'était la meilleure publicité pour vendre ses joueurs. Excusez-moi de revenir sur l'argent et les transferts.
Non, j'aime pas trop là.
Ça a été aussi une vitrine fantastique pour Lyon, quoi.
Pour moi, Annie, c'est une grande victoire pour Lyon. Il y a que 2-2, mais c'est une grande victoire pour Lyon. Parce que ça veut dire que ce club, il a la culture club. C'est-à-dire que Lyon, je le regardais il y a 10 ans quand il était champion de France pendant 7 ans de suite, avec des joueurs comme Chris, Cassapa, Juninho. Déjà, face au Bayern Munich, face au Real Madrid, il faisait des matchs de poule où il y avait une intensité qui était différente de la Ligue 1. Il savait se mettre.
On se croirait déjà en quart de finale.
Il savait se mettre au niveau requis l'exigence requise par la compétition. Et ça, je m'aperçois qu'il y a une permanence dans le temps, parce que ces joueurs-là ne sont
pas. Vous voulez dire qu'il n'y a pas au PSG?
Bah, exactement. C'est-à-dire qu'ils ont une culture
club.
C'est
une réalité,
quand arrive la Ligue des Champions, il se passe quelque chose dans ce club-là. Et ensuite, c'est une grande victoire. Et encore une fois, il y a eu 2-2 pour Bruno Genesio. Parce que face à Manchester City, qui est leader en première ligue, il a mis, par exemple, en meilleur récupérateur, Aouar et Ndombele.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il a fait ça parce qu'il voulait ressortir le ballon proprement.
Il voulait des joueurs de
ballon. De ballon. Et je trouve que c'est un choix d'une audace absolue, folle, magnifique, que peu d'entraîneurs pourraient faire. Et comme c'est Bruno Genesio, comme il est français, comme il est décrié, eh ben, ça va passer un peu inaperçu. C'est dommage, parce que Lyon a sans doute un grand entraîneur. Alors, son équipe, elle fait pas tout bien. Notamment, elle est rejointe souvent en fin de match, comme l'a dit Nabil. Mais elle a quand même un entraîneur solide.
Bah, justement, alors, on a entendu à la fin du match Pep Guardiola. Faire beaucoup de louanges.
À des joueurs surtout.
Alors à celui qu'on surnomme parfois méchamment mais Pep Genesio, c'est-à-dire à Genesio, à son génie tactique notamment, vraiment il lui a rendu hommage. Et puis il a rendu hommage, on va l'entendre, eh bien en gros à la France, aux joueurs français
aussi.
Et à la Ligue 1.
I don't have any regret. So I know which
je n'ai aucun regret sur ce qui s'est passé, sur la façon dont on a joué ce soir. Les gens disent qu'en France, il n'y a que le PSG. Mais ils ne savent pas comment la Ligue 1 regorge de bonnes équipes. C'est pour ça qu'ils sont champions du monde. De jeunes joueurs, physiques, de grande qualité. En France, la Ligue 1 est tellement dure, tellement bonne. C'est pour ça que ce soir, c'est un très bon résultat et une très bonne performance.
Alors,
c'est un bel hommage, ça fait plaisir.
C'est un bel hommage parce que il rend hommage d'une façon générale au football français finalement. C'est ça, vous l'avez compris comme ça, Eric?
Oui, bien sûr.
Parce que quand tu dis, c'est pour ça qu'ils sont champions du monde. C'est vrai que sur le 11 de départ de Deschamps de champion du monde, il y en a pas beaucoup qui jouent en France.
Mais il rend hommage.
Il a dit.
C'est pour ça que j'ai élargi.
C'est le profil français un peu. Voilà. Et puis, ouais, non, mais c'est important. Et puis, ça prend du poids parce que c'est Guardiola forcément qui fait ses louanges. Forcément, si c'est quelqu'un d'autre, peut-être ça prend moins de.
Est-ce que c'était pour dissimuler un peu que son équipe était
non,
un
je pense
peu...
pas qu'il soit
non, mais il aime
du tout
les
comme
joueurs.
Ça.
Lui regarde les joueurs, il aime ça. Il est comme un scout. Quand il va parler à la fin des matchs à Aouar ou à Ndombele, je sais que par exemple quand il a voulu recruter Mahrez, quand il jouait à Leicester, bah pareil, il a été le voir à la fin. Donc moi je pense qu'il rend plus hommage aux footballeurs français, aux talents français. Au génie français.
À la formation française.
À l'engagement aussi, à ce qu'il donne sur un terrain, c'est ça.
Parce qu'il en a quand même trois.
Pas que à l'argent.
Ouais, voilà. Non, mais sur le terrain, il y a Laporte qui est quand même chez lui, qui est déjà français. Il a Benjamin Mendy qui était pas là, qui est français. Mais même si Mahrez est international algérien, il a été formé en France. Donc il sait que c'est un terrain de chasse, quoi.
Le monde entier s'est révélé un peu en France. Donc, il était formé au Portugal.
Non, mais il est pas dupe, hein. Lui, en fait, il se régale, hein. Il regarde le football pour le football, oui. Hein. Il est dans le plaisir.
Bah, on pense à Klopp, justement, Klopp qui disait ce soir.
Il voulait Mbappé, hein, il y a deux ans, il voulait Mbappé. Mbappé, à partir du moment où il a su que Neymar venait au PSG, il voulait pas aller voir au Real ou ailleurs. Mmh. Donc, il a raté, entre guillemets, Mbappé qu'il avait subi avec Monaco. En Ligue des Champions face à City justement.
Et ils font partie de ces entraîneurs qui justement aiment aussi le jeu pour le jeu quoi. Alors évidemment ils sont dans des grands clubs où il faut gagner. Mais c'est vrai que quand Klopp dit oh, bah de toute façon ce sera un beau spectacle, il pense à ça aussi.
Mais parce que voilà il a vu hier des joueurs spectaculaires. Je veux dire encore une fois Aouar Ndombele en récupérateur dans un match comme ça où City est censé avoir le ballon et vous marchez dessus, c'est voilà, ils ont des qualités que on voit on les voit à Dortmund, on les voit dans les très grands clubs.
Bah, avant qu'on parle de Maxwell Cornet, une question pour vous l'ancien joueur Eric, comment on peut comprendre que ces joueurs qui parfois sont un peu quelconques le samedi ou le dimanche en Ligue 1 tout d'un coup là, alors Dominique parlait de la culture de club et le fait que ce soit la Ligue des Champions, mais comment comprendre que alors là, on les voit, mais à un top niveau.
Ben c'est fou.
Est-ce que fait City presque, par exemple, toutes les semaines dans son championnat, par contre?
Ouais, bien sûr, mais c'est fou parce que je pense que la Ligue des Champions est une vitrine aussi pour les joueurs français et que forcément en championnat.
Vous allez dans le sens de Nabil.
Non, mais c'est vrai, c'est une vitrine. Ça, alors il n'y a pas que ça, bien sûr. Parce que
il y a
l'engouement de la compétition, il y a le spectacle, il y a le fait de jouer contre des grandes équipes et des grands joueurs. Ça aussi, c'est gratifiant pour des joueurs qui jouent en championnat ou qui ont plus de. Vous avez joué à, je vais pas dire des clubs, ça évitera, mais vous avez joué dans d'autres clubs. Non, mais voilà, ça n'a rien à voir. Quand vous jouez contre Manchester City, vous savez déjà que vous allez être en difficulté. Donc, il faut être à 100%. C'est aussi le travail psychologique. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain a besoin de se remettre aussi dans ce.
Mais quand
dans,
tu parles
dans
de vitrine, Eric, tu parles aussi, par exemple, pour se montrer en équipe de France, par exemple.
Bien sûr. Ah non, mais je parle pas que voilà, je parle pas de transfert pas que, ou de choses comme ça. Moi, je parle de football voilà, parce que et, voilà. et de visuel à tout le monde moi, et surtout oui, de, voilà.
de
valorisation.
De montrer comme on peut être bon.
Bah, je pense que hier soir, comment il s'appelle, Didier Deschamps devant sa télé, il s'est dit Aouar, qui est actuellement l'équipe de France Espoir,
qui a 20 ans,
qui a 20 ans, on est en 2018. Il se dit pour 2020, pour l'Euro, ce gars-là, il me le faut dans les 23. C'est ça qui se dit, Didier Deschamps.
Ouais. Alors, est-ce qu'il pourrait prendre Maxwell Cornet? Non, puisque Maxwell Cornet a déjà choisi. Il joue pour la Côte d'Ivoire. Hein, il était encore récemment avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais écoutons-le quand même, ce mystérieux joueur, puisque c'était sa deuxième titularisation hier soir.
Il a le droit de jouer que contre City.
Moi, je comprends.
il a pas de chance. Le franco-ivoirien, un peu sur un nuage au micro de Cédric De Oliveira, qui a suivi le match pour nous hier sur RFI. Maxwell Cornet, donc auteur d'un doublé. Et même, il avait, on s'en souvient, marqué un but à City. Et un de nos stagiaires, Samuel, me rappelait que du coup, il a marqué un tiers des buts qui ont été encaissés par City ces derniers temps. Donc, c'est vraiment.
Face au numéro 1.
Ah, ouais, puis c'est des beaux buts à chaque fois.
Alors, écoutons Maxwell Cornet et surtout les éloges que font de lui, eh bien, ses camarades de jeu.
Allez, en roule. Ses efforts. Cornet.
C'est lui la vedette ce soir.
Il a fait un super match. Il a marqué deux buts. Ils sont jolis, très jolis, surtout le premier. Voilà, on connaît tous ses qualités. Il a montré encore que pour pouvoir avoir confiance en lui.
Maxwell est sur la lancée de son entrée à Guingamp, de son entrée contre Saint-Etienne. Ça montre que lorsque on a le bon esprit, même si parfois on rencontre des difficultés, même si parfois c'est difficile, lorsqu'on garde un bon esprit qu'on travaille, on est récompensé.
Je suis très très content et très fier de lui parce que je le connais bien, je sais son potentiel, je sais le mec, et un mec très très professionnel et il voit grandir et je sais qu'il va faire tout pour les groupes et pour l'aider tout le monde.
Faire un doublé ici à Lyon, si on m'avait dit ça avant, j'aurais signé directement. Donc voilà, c'est une fierté. Parce qu'en Ligue des Champions, c'est une grande compétition. Je suis vraiment content que ça m'ait réussi. Donc, mais comme je le dis, voilà, ce soir, c'est vraiment pas la performance individuelle qu'il faut retenir. C'est l'état d'esprit du groupe. On a montré qu'on avait une grande équipe. On avait une grande équipe de Lyon ce soir contre une grande équipe de Manchester. Malheureusement, on n'est pas revenu avec les trois points qui auraient permis d'être qualifié, mais bon. On va aller chercher cette qualification en Ukraine et je ne me fais pas de soucis.
Voilà, Maxwell Cornet, le franco-ivoirien donc, qui n'en était donc qu'à sa deuxième titularisation. On peut s'étonner vu ce qu'il fait sur City. Alors comme vous disiez, il a le droit de jouer que contre City.
C'est mais pas quand mal.
Même. Eric, pourquoi
Pourquoi il ne joue pas
Pourquoi il est si peu utilisé par Bruno Genesio?
Alors moi, c'est ce que je vous disais avant. Moi, j'ai vu au début de saison, il y avait pas de relation avec Depay et Traoré. Ils ne jouaient qu'ensemble au début de saison pendant
pourquoi
le match
parce
de préparation.
Qu'ils sont en concurrence.
Je sais pas ce que c'est. Franchement, moi, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse se dire je vais pas donner. Ah, parce que moi, j'ai vu des matchs où il était tout seul dans une position où il pouvait marquer le but et à chaque fois Depay choisissait Traoré. C'était incroyable et je me dis mais à chaque fois les gens disaient ouais faut le transférer et tout ça mais je me dis mais c'est quand même une injustice incroyable par rapport à son jeu et par rapport à parce qu'il proposait
et la
des
saison dernière il jouait plus.
Non mais il a eu des problèmes de il avait sur son parcours lyonnais il a vite plafonné parce qu'il arrivait comme un grand espoir de Metz. Il a eu des problèmes de finition parfois ou de choix. Là quand j'entends un des joueurs dire on connaît ses qualités mais il connaissait aussi surtout ses limites et ses défauts et ce dont il parlait les saisons dernières, Eric a raison de rappeler.
Il s'était arrêté sur ses défauts.
Eric a raison de rappeler que on souhaitait plutôt le transférer, ça s'est pas fait parce que Dembélé, Nicolas Pépé n'est pas venu. Mais si Nicolas Pépé était venu à Lyon, je peux lui dire que Maxwell Cornet aujourd'hui on n'en parlerait pas parce qu'il l'aurait vendu du côté de Wolfsburg. Alors, il est peut-être moins talentueux intrinsèquement qu'un Bertrand Traoré, mais dans l'effort, le contre-effort, dans le volume, dans ce qu'il propose,
athlétique, hein.
Il répond aux exigences du haut niveau. Moi, je me suis déjà retrouvé au stade, au Parc OL, et sans dévoiler quoi que ce soit, je me suis retrouvé avec des entourages de joueurs, des joueurs sur le terrain. Je peux vous dire que si on devait faire un classement à l'ATP, Maxwell Cornet, il est entre la 17e et la 20e place, quoi. C'est-à-dire que il agaçait plutôt tout le monde. Là, aujourd'hui, c'est le héros. Tant mieux pour lui, qu'il prenne un peu la lumière. Tant mieux pour lui.
Dominique, alors moi j'aurais une question pour vous.
je suis là pour vous apporter.
Est-ce que cette deuxième titularisation on appelle une troisième? Est-ce que Genesio quand même va se dire je m'en fous de ce que pensent mes joueurs dans le vestiaire, on va s'arranger? Et est-ce qu'il peut y avoir une rédemption grâce à ses performances?
J'ai déjà oublié quel était le programme de Lyon ce week-end. Peut-être que l'adversaire proposé ne s'adapte pas à la titularisation qu'on en est, mais en revanche, pour
il
le
peut
joueur,
jouer contre tous les adversaires de Ligue 1 quand tu joues contre Manchester City, tu peux jouer contre tout le monde.
C'est s'inscrire dans le collectif.
Pour moi, ça serait incompréhensible qu'il soit pas titulaire.
Je suis d'accord.
Ce week-end.
Ouais.
C'est-à-dire que même pour le signal qu'on lui envoie, écoute, tu nous as mis un doublé contre City qui est considéré comme un des quatre favoris de la Ligue des Champions avec le Real, le Barça et qui vous voulait en quatrième. Donc tu as marqué aussi au match aller. Pour moi, ça serait incompréhensible que le signal envoyé serait très mauvais, et je pense pas que Bruno Genesio soit comme ça.
Faut sortir Fekir, là.
Donc je pense que il doit jouer ce week-end.
Gros match, ils vont à Lille.
Par exemple, il est rentré à Guingamp récemment, à Guingamp, un match où ils étaient mal embarqués, Lyon, ils perdaient 1-0 à la pause, et c'est lui qui change un peu le match. Donc pour moi, et là c'est en plus c'est un gros match, c'est Lille,
ouais,
parce que c'était une bataille pour la deuxième.
Faut cavaler contre Lille.
Pour la deuxième place, pour
oui.
la
mm-hmm. Lille en plus pour la garantir.
Vient de perdre à Nice, donc mm-hmm. Lille sera très revanchard. Donc c'est un match pour lui parce que c'est un grand match et c'est un homme qui moi ne déçoit jamais dans les grands matchs. Maxwell Cornet, souvent on me parle de stats, on me dit dans le foot, moi je suis comme Eric sur Di Maria, je suis très déçu et les gens m'opposent ses stats. Di Maria c'est celui qui a les meilleurs stats des quatre de devant. Mais moi les stats ça m'intéresse pas. C'est qu'est-ce que je vois. Et ce que je vois de Di Maria m'intéresse pas en ce moment. C'est pourtant un joueur formidable, hein. Mais ce que je vois depuis 6 mois est pas bon. Et ben Maxwell Cornet, ses stats sont pas super bonnes, mais ce que je vois quand il joue, ouais, c'est un joueur formidable. Il faut regarder les matchs. Et quand on les regarde, on s'aperçoit que Maxwell Cornet, c'est un joueur différent. C'est un joueur qui propose quelque chose sur le terrain. Il amène une folie que les autres n'ont pas. Et donc, Maxwell Cornet, ce week-end contre Lille, qui est un choc de Ligue 1, il doit jouer.
Et ben voilà. Ici, nous, on a aimé ce Maxwell Cornet qu'on a vu donc contre Manchester City. Une dernière question à propos de Lyon. Mais où se jouera ce match capital pour les Lyonnais, puisqu'ils joueront leur qualification du côté de l'Ukraine? Eh bien, à cause du contexte géopolitique, on vous en parle sur RFI, ces problèmes entre l'Ukraine et la Russie depuis plusieurs années, mais avec le regain de tension au large de la Crimée ces dernières heures, eh bien, le président ukrainien a déclaré la loi martiale dans les régions limitrophes de la Russie. Et il se trouve que Kharkov, c'est justement à quelques encablures, on va dire, de la frontière. Alors, dès hier soir, Jean-Michel Aulas s'est penché sur ce problème.
Demander à ce que l'UEFA regarde de très près ce qui se passe, puisque le pays est en crise, malheureusement. Donc, probablement qu'il y aura des décisions nous concernant, mais en tout cas, on n'a pas trop envie d'aller à Kharkov, donc pas que... On n'aimerait pas, parce que ce sont des gens très sympathiques, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'insécurité en ce moment. On a du mal à trouver même un avion pour aller là-bas. Voilà, donc il y aura sûrement des échanges dans les jours qui viennent avec l'UEFA pour que tout le monde soit en sécurité et qu'on fasse un très bon match contre Donetsk.
C'est la géopolitique, hein, parfois, qui rentre dans ce domaine.
Et oui,
malheureusement.
Il y a eu la guerre d'abord qui a détruit la Donbass, voilà, Arena, là où jouait...
Superbe installation.
C'est là où l'équipe de France, j'ai vu jouer à l'Euro 2012.
C'était
c'est
leur camp de base, hein, en 2012, voilà, avec Laurent Blanc.
C'était un stade fantastique. Il y avait eu un France-Ukraine où il y avait eu un déluge. En une heure, il n'y avait plus rien. On pouvait jouer au foot parce que c'est un stade hyper moderne, hyper high-tech. Bon, il a été détruit par la guerre. Et maintenant, on est sur une recrudescence de violence entre...
Entre les deux pays,
entre Poutine et l'Ukraine, voilà. Donc c'est très compliqué de savoir. Moi, je sais que j'y suis allé avec le PSG, mais ils jouaient près de la Pologne. On y jouait en Ukraine, mais près de la Pologne. Et maintenant,
à Lviv.
Voilà.
Mm-hmm. Et donc peut-être d'ailleurs retourneront-ils jouer là-bas, hein, puisque finalement ils ont un peu l'habitude de bouger, les pauvres, depuis que cette guerre et qu'ils ont perdu il y a 3 ans, si je me trompe pas. Ils ont beaucoup joué à Lviv avant de retourner vers Kharkov, qui était pas trop loin de Donetsk. Bon, peut-être retourneront-ils là-bas. En tout cas, apparemment, l'UEFA déplacerait aussi demain un des matchs de Ligue Europa qui était prévu dans l'est, enfin au centre de l'Ukraine, et qui irait plutôt se jouer du côté de l'ouest. Continuons dans cette Ligue des Champions. Hier soir, il y avait d'autres matchs que celui disputé par le groupe élargi, donc de Lyon et de Manchester City. Et on va s'arrêter sur Manchester United. Toujours surprenant, parce que on a connu le Fergie Time et maintenant on a l'impression qu'il y a aussi le Mourinho Time.
Flung up towards Lukaku, who's won it well here for Murillo and Fellaini! Trafford has thirsted for that. Fling the drinks to the floor. Or raise a drink to your lips and toast the goal from Marouane Fellaini.
I just want to say for the ones that like stats.
Pour ceux qui aiment les statistiques, 14 saisons en Ligue des Champions, 14 fois qualifiés après la phase de groupe. Jamais une de mes équipes ne s'arrête à la phase de groupe. La seule saison où je n'ai pas joué en Ligue des Champions, j'ai gagné l'Europa League.
Dominique, vous n'aimez pas les statistiques, mais Mourinho, José Mourinho, il les aime bien.
Ah oui, bah c'est son meilleur argument, hein, depuis que ses équipes sont, depuis que son Manchester United est insupportable à regarder. Alors c'est le Mourinho Time, c'est aussi le bouteille d'eau énergisante Time, puisque il a complètement envoyé valdinguer
exploser les bouteilles.
Bouteilles, mais ça c'est pour qu'une l'image fasse le tour du monde.
Voilà,
c'est uniquement buzz.
Et qu'on parle pas du jeu de son
ça,
équipe.
C'est qu'est-ce que je peux faire si on marque à la 93e minute pour que on retienne moi et pas le reste. Et donc tout est pensé, je pense, parce que ici, ces bouteilles d'eau là, elles étaient là depuis quelques instants. Et il y a pensé. C'est pas des gestes spontanés comme ça. Il nous fait toujours croire que la dernière fois il a célébré la victoire de manière complètement folle à la Juventus. Ah ouais. Il nous a dit bon non, j'ai tendu le bras parce que j'étais content.
Ouais, en fait, il montre ses trois victoires.
Voilà. Mmh. Donc en fait, il invente toujours des choses pour ramener.
Il a besoin de reconnaissance. Voilà. Et forcément, il l'a pas par rapport au jeu de son équipe. Avant, il avait cette reconnaissance par rapport au jeu et par rapport à ses équipes, ses trophées.
Ouais,
ses
maintenant, il vit sur son passé.
Il l'a plus.
En tout cas, c'était un but de Fellaini. Il a pas perdu son pouvoir, même s'il a perdu ses cheveux.
Ouais, il a coupé la tignasse. C'est vrai que, bon, en tout cas, il a gardé l'équipe.
Il y avait une grande tignasse noire, maintenant blonde, et maintenant, il n'y a plus rien.
Non, mais
il a perdu
2
kilos quand même.
Ouais, ouais.
Pogba. Il a perdu 2 kilos sur la
barre. Moi, je suis
Pogba n'était pas titulaire, hein.
Non, c'était parce que j'ai déjà croisé Marouane Fellaini à Marrakech et son frère avait exactement la même coupe de cheveux en fait et je me demandais si lui aussi avait coupé ses cheveux ou pas. Enfin, c'est
bon. Gendouzi, c'est son frère qui joue à sa place.
Pardon.
Gendouzi les garde.
Ah ouais, Gendouzi les garde.
Ouais. Ils ont fait une couverture avec les cheveux.
En tout cas, oui, il y avait des perruques qui circulaient dans les stades aussi. Hein. En tout cas, Manchester United s'est donc qualifié. C'était aux dépens des Young Boys de Berne, mais quand même.
C'était à l'arraché. Hein,
c'est de Guillaume Moirot.
C'est une équipe très faible quand même.
Ouais, mais là, attention parce qu'ils ont raté beaucoup de choses. Hein. Ils avaient le ballon, c'est une équipe faible,
c'est une équipe qui peut battre les trois quarts des équipes de Ligue 1, hein, Young Boys Berne. Hein. Je pense notamment à Roger Assalé, l'international ivoirien, qui avait été notamment scouté, failli être recruté par l'Olympique de Marseille. Donc c'est une bonne équipe de Ligue 1, Young Boys.
Oui, mais c'est pas un club qui est régulièrement Ligue des Champions.
Ça faisait longtemps qu'il n'était pas
dans la phase de poule. Voilà, quand même Mourinho et Manchester avec le talent qu'ils ont. Pogba était sur le banc, c'est quand même incroyable, quoi. Pour moi, c'est incroyable.
Ouais, c'est incroyable, mais ils vont passer et puis ils vont embêter toutes les équipes qui vont croiser, quoi.
Oui, les derniers se sont fait sortir par Séville
en
la finale et c'était mérité.
Ah oui, c'était
bien mérité.
Vous savez ce qu'il faudrait, c'est un PSG Manchester United en 8e de finale. Je pense qu'on rigolerait bien.
je suis pas sûr. Hier soir, on a aussi vu la qualification et un retour un peu historique d'un club historique, en tout cas, ça c'est sûr en Europe, c'est l'Ajax d'Amsterdam.
Bien sûr, j'adore.
Vainqueur à Athènes 2-0. Oui. Hein. Voilà l'Ajax de retour après 13 ans d'absence.
Culture club.
Ouais. Mais c'est mérité. C'est
culture club exactement. Et en plus mérité, ça vous avez
mérité,
raison.
Il y a du talent, il y a des joueurs de talent et puis il y a toujours une même philosophie. On est patient, on sort les joueurs du centre et puis ça monte tout doucement et puis ils vont éclater ailleurs. De Jong, il va finir, je sais pas comment. Vous avez l'intelligence d'aller chercher Ziyech, d'aller chercher Mazraoui. Voilà, vous avez des joueurs de vraiment de qualité.
Tadic qui a marqué
exactement.
Un doublé hier.
Et puis voilà, c'est une osmose intelligente de l'Ajax et ça donne des matchs de qualité. Ils ont failli, moi j'ai vu le Bayern Ajax où ça finit 1-1 et ils doivent gagner 4-1 ou 5-1 l'Ajax au Bayern c'est un miracle que le Bayern survive à ce match là franchement.
Il y a pas longtemps l'Ajax était en phase de poule avec le PSG, il y avait eu un partout au
même
match
contre Lyon, rappelle-toi
contre Lyon, c'était déjà très bien quoi. Alors ils étaient pas sortis du groupe,
on est passé dans une autre phase et
il y a une culture effectivement d'un club et qui pourrait, selon François David, notre correspondant espagnol, il dit je les vois en quart de finale. Alors on verra où vous arriverez. Ouais. Le Bayern s'est qualifié aussi hier soir en gagnant 5-1 contre un petit.
Grand Robben.
Ouais. Et Ribéry aussi.
À 102 ans, hein, il continue à être bon.
Hein. C'est la fin de ce Radio Foot. Merci beaucoup, messieurs. Merci aussi à Louis Lafargue qui m'a aidé à préparer l'émission, à Samuel, notre stagiaire, et puis à Laurent Salerno qui était à la réalisation. Et surtout, eh bien, soyez au rendez-vous tout à l'heure sur les antennes de RFI, 20h en temps universel. Coup d'envoi.